Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral. Cet été, le Cercle des conteurs du Briançonnais vous offre une sélection des œuvres écrites pour leur dernier spectacle, Contes et musique. Les histoires que vous allez entendre sont inspirées de peintres et de peintures, de l'impressionnisme à aujourd'hui.
La graine. C'était un jour d'automne, un beau jour en fin d'après-midi. Je revenais d'une promenade. Je me suis assise sur l'herbe près d'un champ fraîchement labouré. Le soleil orange inondait ce champ labouré aux multiples couleurs, orange, marron. J'y ai vu d'un seul coup le tableau du semeur de Van Gogh. Alors m'est apparu le semeur avec sa casquette vissée sur sa tête. Son teint buriné, son manteau sombre, son pas rythmé, décidé, sa main droite prenant le grain dans sa besace pour envoyer toute cette semence à la volée dans ce champ immense où, à perte de vue, au loin, trônait une maison minuscule entourée d'arbres. Le semeur continuait sa marche cadencée quand un arbre est apparu, chargé de ses feuilles d'automne. Arbre qui semblait se pencher pour protéger l'homme, l'inviter à s'asseoir. C'est peut-être là que l'histoire de la graine est née. C'était s'aimer. Il est dit qu'un promeneur, près du champ labouré, a entendu une voix qui criait « Au secours, sortez-moi d'ici, il fait noir !» Était-ce un rêve? La petite voix recommençait « Au secours, il fait noir !»« J'ai froid, sortez-moi d'ici !» Pas de doute. La voix venait du champ labouré. Le promeneur s'est agenouillé, a gratté doucement la terre. Là, une graine a dit « Ouf, un peu de lumière, merci, il fait chaud. Que fais-tu là, petite graine ?»« J'étais bien au chaud dans mon grenier, en tas avec mes amis. Je voyais le soleil, le soir, je m'endormais, serré contre les autres. De temps en temps, une souris déclenchait une avalanche. C'était drôle, et je changeais d'amis. Et avant ?» J'étais dans un champ, je me balançais avec des amis au sommet de ma tige, au gré du vent, sous le soleil, sous la pluie. C'était beau, l'arc-en-ciel tout illuminé de couleurs plus belles les unes que les autres. Et avant, elle s'est arrêtée de parler, un grand silence. Elle semblait réfléchir. Avec un gros soupir, elle m'a dit « Remets-moi en terre pour que mes enfants se balancent sous la pluie, sous le soleil, la pluie et l'arc-en-ciel aussi belles couleurs, qu'ils soient entourés d'amis dans le grenier, serrés les uns contre les autres, même si la souris leur promet une avalanche. Ainsi va la vie. »
Claude et la libellule. Sur la rampe en bois de la passerelle surplombant l'étang, j'attends Claude. En cette fin de matinée où le printemps a donné à la nature toute sa plénitude, les branches des arbres sont courbées vers l'étang, comme attentives à la beauté des nénuphars, tapis fleuris couvrant sa surface. Depuis quelques matins, Claude pose son chevalet en bordure de l'étang, choisit les couleurs d'une juste représentation et les fixe sur la toile d'une main rapide et précise. Émerveillé, je regarde l'œuvre. Mes yeux s'arrêtent à chaque détail, mais ne trouvent rien de ce qu'ils cherchent. Peut-être que demain? Claude est arrivé, plus tôt qu'hier. Le temps est gris, succédant à des journées ensoleillées. J'imagine son désarroi, Comment continuer à peindre un paysage inondé de lumière alors que l'ombre atténue les contrastes et l'éclat des couleurs? Claude n'est pas heureux de cela. Après quelques touches de détails, il est parti, emportant chevalet, peinture et pinceau. Avant de monter l'escalier menant à sa demeure, il s'est arrêté longuement devant le rosier qui semble être le gardien des lieux et a respiré ses effluves révélés par l'humidité de ce jour. De ce moment-là, le peintre déçu s'est retrouvé une humeur joyeuse. Moi, je reste sur ma faim. Ce matin-là, le temps est nuageux. Et Claude a fait le tour de son jardin accompagné du jardinier, s'arrêtant, s'extasiant de la beauté des plantes et de la diversité des couleurs, chaque époque renouvelée. Quelques avis à son jardinier, le conseil n'étant pas sa pratique. Émile connaît son métier et procure par son travail l'inspiration du peintre. Le lendemain matin, j'ai vu Claude, une grosse valise à la main, chevalet sur le dos, habillé pour le voyage, s'entretenir avec Émile, sans doute pour quelques idées venues pendant la nuit. Curieuse comme d'habitude, j'ai prêté l'oreille et ce que j'ai entendu m'a redonné de l'espoir. Claude allait peindre quelques animaux de ferme à côté de Pourville, petit port de pêche, et serait logé à l'auberge de Madame Paul, où il avait ses habitudes. Je suis retourné sur la passerelle, j'ai écouté et regardé la nature où je vis. Je me suis mis à rêver de célébrité. Oui, moi. Pourquoi ne devrais-je pas être regardé, distingué au milieu des nénuphars? Comment inciter le peintre à l'attention de mes couleurs, de ma légèreté? Sans doute me voit-il, mais ne me considère pas. À partir de ce moment, j'ai pris la décision de me faire remarquer, provoquer le regard du peintre. Revenu de Pourville, Claude devant son chevalet est de nouveau installé. La journée s'annonce belle. Voletant en large cercle devant ses yeux, puis me posant sur un nénuphar où ses yeux semblent se fixer, je ne doute pas que cette fois j'allais réussir à capter son attention. Mais ce jour-là encore, mes tentatives sont restées vaines. Déçu, au bord de la colère, alimenté ce matin-là par la conversation entendue entre Émile et Marie la cuisinière, évoquant le voyage de M. Claude à Pourville, il avait consacré son temps à peindre des vaches et des dindons. Je n'ai aucune animosité envers les grosses bêtes, mais la rancœur est montée en moi. Quoi ? Le peintre des beautés de la nature et des créations de l'homme pense encore qu'il peigne d'un dindon ? Mais pourquoi ne me voit-il pas, moi, la libellule élégante et colorée ? Le lendemain, je gonfle le torse, déploie mes ailes tant que je peux, espérant que ce stratagème me rende plus visible. Claude est arrivé accompagné de son ami Georges, le président, échangeant leurs opinions sur l'air du temps et l'opportunité de mettre en terre quelques plantes nouvelles. Arrivé sur la passerelle, accoudé sur la rampe, le regard porté sur les nénuphars, Georges dit « Je suis toujours fasciné par le vol des libellules, ces moments où elles stagnent dans l'air, comme des fleurs souhaitant être admirées. » « Oui, bien sûr, » a répondu simplement Claude. Le soir tombe sur le jardin. Assis sur le banc près de l'entrée de la maison, Georges et Claude, hommes vieillissants, évoquent leurs tourments liés à l'âge. Alors j'ai entendu et j'ai compris. Claude perd la vue, son regard de peintre. Il ne voit pas, Il ne peut pas me voir. Alors moi, la libellule, si ce possible m'est donné, sans doute aurais-je pleuré. Ce matin-là, Claude peint les nénuphars, sans doute image en sa mémoire.
Une pause signée de Soutine. Paris, 1946. L'hiver n'en finit pas, trop de pluie et de froid. Rue de Rivoli, un homme se traîne, courbé sous le poids de son manteau noir crasseux et le poids des années passées à dormir dehors. Seule sa tête émerge du col remonté, laissant apparaître des cheveux blancs hirsutes. La pluie redouble. Il se réfugie sous le porche d'entrée de la galerie d'art. Sur la porte, une affiche signale l'exposition en cours. Il y a un paysage, aux couleurs chargées, aux lignes déformées. On y voit une route qui grimpe méchamment pour rejoindre à gauche des maisons cabossées, accolées. Une silhouette de femme, peut-être, marche sur la chaussée vers le hameau. De l'autre côté de la route, deux marcheurs côte à côte, en noir et blanc, comme des pions de dames, descendent le sentier herbeux qui longe les haies touffues d'une propriété. De la propriété, on ne voit qu'un toit et des arbres, aux branches étalées, feuillues, qui se penchent vers la chaussée. Est-ce à cause du vent ou est-ce par habitude de regarder les passants et passantes ? À la vue de ce paysage, l'homme reconnaît tout de suite l'auteur. Cette façon de tordre les lignes, de déformer la réalité, ses couleurs appuyées, contrastées. C'est Soutine, Chaim Soutine, son pote d'antan. Il l'appelait son petit mongol. Alors, sans réfléchir, il pousse la porte de la galerie. À la vue des tableaux exposés, il se retrouve soudainement jeune, poussant la porte de l'atelier de Soutine en 1920-22. À cette époque, il tient une boutique de tatouage dans un quartier, le quartier de Montparnasse, près d'un drôle de bâtiment en forme de tour octogonale, la Ruche. Là se trouvent des peintres, des sculpteurs, souvent venus de l'Est, qui trouvent à louer un atelier et à se loger pour pas cher. C'est là qu'il croise Maudit Igliani et rencontre Soutine. Sa compagne, Natalia, son amour de jeunesse, pose pour ce dernier. Ainsi, certains soirs, il pousse la porte de l'atelier avec les bras chargés de bouteilles de rouge et d'absinthe pour se retrouver à trois. On ne mange pas tous les jours, ce qui n'empêche pas de faire la fête. L'atelier est petit, encombré. Au centre trône le peintre et son chevalet, avec ses pots de peinture à l'huile. Les couleurs se sont répandues partout, y compris sur le parquet. Il y a un tabouret pour s'asseoir et un canapé pour dormir. On ne fait pas un pas sans heurter un cadre ou une toile roulée en vrac. De Soutine, il retient sa tête de mongol, une tignasse de cheveux noirs, des oreilles larges et décollées qui émergent et encadrent un visage large, des pommettes hautes et saillantes, des yeux bridés, un nez épaté et des lèvres épaisses. Un visage qui oublie de sourire. Soutine peint à longueur de journée. Il le fait avec frénésie. Il étale, il superpose les couleurs au pinceau, au couteau et même, parfois, avec les mains. Il peint son sujet sur le vif, en une seule fois. Il s'arrête lorsqu'il juge que c'est fini. Peu de toiles finissent signées par lui. Exigeant, il pense toujours faire mieux. Il abandonne l'ouvrage, les faces de la toile, ou décloue la toile pour se resservir du cadre. Un soir de fête, un peu trop arrosé, Soutine lui dit « Sers-toi et prends un portrait de Natalia, celui qui te plaît. » Tous ces portraits se valent, ils ne verront pas les salles d'exposition, ajoute-t-il. Moi, je me moque des salles d'exposition. Je veux un portrait de Natalia qui soit avec moi, comme je suis avec elle, éternellement. Tu vas faire un portrait sur mon dos comme un tatoueur. Le peintre, bien que saoul, lui rappelle qu'il est peintre et pas tatoueur. L'autre répond, aussi saoul que lui, qu'il est tatoueur et pas peintre. Tatouer, c'est simple, quand on sait dessiner et peindre, comme toi. Le reste est un problème de matériel, pistolet électrique, aiguille vibrante, couleurs variées, appropriées. Le geste est facile et vient en tatouant. Le lendemain, il est là avec son matériel. Il montre à Soutine, sur son bras, comment s'en servir en réalisant un petit tatouage. Soutine, habitué à peindre sur toutes sortes de supports, se met face au dos nu, esquisse au pinceau les contours de Natalia, qu'il connaît par cœur. Puis il s'attelle à remplir de couleurs qu'il incruste dans la peau à coups de pistolet vibrant. La peau du dos est vite labourée. Les quelques poses verres en main ne suffisent pas à calmer les irritations-agressions que produisent les assauts du peintre. Au petit matin, Soutine en a fini. Satisfait de son travail, il le signe. Il lui faudra plusieurs semaines pour retrouver son dos en état. Mais oui, il est fier de ce portrait de Natalia qui, du cou jusqu'au rein, projette des couleurs flamboyantes et éclaire son amour. 6 mois plus tard, elle le quitte pour un autre peintre, lui laissant en garde son portrait. « Que faites-vous ici ?» Devant lui, un homme, une montagne en uniforme, l'interpelle et lui bloque le passage. « Vous êtes dans une galerie d'art. » « Oui, je sais. » J'ai connu dans le temps le peintre Chaim Soutine. C'était mon ami d'antan. Et si vous ne me croyez pas, je peux vous le prouver. J'ai sur moi un tableau de lui, regardez. Il jette son manteau à terre, il se met torse nu, il tourne son dos vers la salle. Très vite, il se forme un arc de cercle de visiteurs. Ce sont des oh de stupéfaction, des ah d'admiration qui fusent autour de lui. En effet, c'est bien un portrait de femme signé Soutine, dit le directeur de la galerie attiré par le regroupement. C'est incroyable, on peut dire qu'il correspond à la période où il résidait à Montparnasse. Je vous en offre 200 000. Ne l'écoutez pas, il vaut 5 fois plus, réplique un autre. L'homme, au dos nu, est désemparé. Cette croûte qu'il avait enfouie dans sa mémoire, témoin de son bonheur perdu, ressurgit soudain pour devenir la partie de son corps la plus convoitée, désirée. Que faire ? C'est alors qu'un homme bien fait de sa personne, costume 3 pièces, manteau bordé de fourrure, se détache du cercle, retire son monocle et s'adresse à lui. Que diriez-vous de passer le reste de vos jours au soleil, allongé dans une chaise longue, sous un parasol, au bord d'une piscine ? Voyez-vous, je suis le directeur du Carlton Palace and Khan. Je vous invite à vivre le grand confort. Dormir dans les draps de soie, prendre votre petit déjeuner au lit, manger à votre convenance et boire nos vins de grand cru. Tout cela gratuitement, bien sûr. En contrepartie, vous mettrez torse nu comme vous êtes là, chaque jour et pendant 2 heures, vous vous déplacerez dans l'hôtel parmi notre clientèle, pour leur plaisir. L'homme distingué prend la sortie sans attendre de réponse. Notre homme se rhabille comme il peut et le rattrape si bien qu'ils sortent ensemble de la galerie, laissant un froid. On ne les a jamais revus dans la galerie ni dans le quartier. Les expositions se sont enchaînées dans la galerie quand un jour, on apprend dans la presse, repris par la radio, qu'un nouveau tableau, un portrait de femme, reconnu par les experts comme étant un soutine, s'est vendu aux enchères 1 200 000. Le tableau était présenté dans un cadre noir épais, la toile était abondamment vernie, ce qui a étonné les experts, mais la signature était bien celle de Soutine. Le tableau porte le nom de Natalia. Que dire? Que penser de tout cela? Quand on sait qu'il n'y a jamais eu de Carlton Palace à Cannes, on peut toujours rêver que notre homme, qu'il soit vivant ou mort, ait pu vivre le luxe promis. Drap de soie, petit déjeuner fumant, apporté sur un plateau par une mignonne serveuse. Monsieur a bien dormi. Monsieur désire autre chose. Que monsieur passe une belle journée.
Chien aboya à la lune de Miro. Il était une fois un roi qui régnait sur un pays prospère, dont les habitants ne manquaient de rien et vivaient heureux. Ce roi vivait dans un palais magnifique, avec femmes et concubines en grand nombre. Il possédait des coursiers magnifiques et d'innombrables châteaux. Il aimait se reposer le soir venu sur le toit de son palais, d'où il pouvait admirer le ciel constellé d'étoiles étincelantes comme des diamants. Quelle douceur c'était là! Pourtant son bonheur était gâté par la présence de la lune, cette importune qui changeait si souvent de forme, tantôt ronde, tantôt en croissant tournée vers la droite ou vers la gauche, quelquefois disparaissant. Bref, désagréable la lune, capricieuse, n'en faisant qu'à sa tête. « Mais je suis le roi, » se dit le roi un jour d'humeur chagrine. « La lune doit disparaître. » Il convoque alors tous ses ministres et leur donne l'ordre d'aller décrocher cette importune qui lui gâte ses nuits. « Votre Majesté, cela est impossible, » répondent en cœur les ministres. Il convoque alors ses savants et leur donne l'ordre de trouver un système pour la faire disparaître. Mais tous répondent en cœur, « Votre Majesté, cela est impossible. » Que l'on fasse savoir à tous mes sujets que celui qui réussira sera récompensé. Je lui donnerai son poids en pièces d'or. » De nombreux candidats se présentent. L'un est cow-boy et propose d'envoyer un lasso, d'attraper la lune par une corne et de la redescendre sur terre. Et c'est ce qu'il fait. Mais la lune résiste et il échoue. L'autre est ingénieur. Il a créé un aspirateur géant et puissant pour aspirer la lune. Mais la lune met un caillou dans le tuyau de l'aspirateur qui se bouche, et il échoue. Apparaît alors un jeune homme, grand, habillé de maigre, accompagné de son chien. Oh, pas un chien de race, non, un cornio, un klebs, quoi. Le garçon porte sur son épaule une échelle. « Moi, Majesté, je voudrais tenter ma chance. »« Avec cette échelle, tu te moques de moi. »« Je suis ton roi. Sais-tu que je pourrais te faire fouetter pour ton impertinence ?»« S'il vous plaît, Majesté. »« Tu ne manques pas d'audace, » répond sa Majesté. « Si tu réussis, tu auras ton poids en pièces d'or. » Et en plus, je te nommerai mon premier ministre. Victor, c'était son nom, repart, plein d'espoir, vers la campagne avec son échelle sur l'épaule et son chien sur ses talons. C'est l'hiver, il fait froid. C'est la nuit, la lande est nue et sombre. Le garçon plante son échelle dans le sol. Il faut vous dire que ça n'est pas n'importe quelle échelle. Elle lui a été offerte par sa marraine, fée de son état. Garde bien cette échelle magique, lui a-t-elle dit, elle te rendra invisible et te propulsera au gré de tes désirs jusqu'à l'infini sans que jamais tu ne te fatigues. Oh, il l'avait bien utilisée quelquefois pour grimper dans les arbres. Et ce soir, il va tester ses vraies performances. Toi, Médor, tu restes là et tu m'attends. Puis il se lance vers l'inconnu, à la conquête de la lune. Lorsqu'il arrive à sa hauteur, il lui trouve un aspect étrange. Jamais vu une lune de cette figure-là, se dit le garçon. Elle est peut-être malade. Et il la salue poliment. Salut la lune. Salut Victor. Tu me connais ? La lune tout saute. Tu as l'air fatigué, tu as la bronchite ? La lune fait la moue. Veux-tu descendre avec moi sur terre ? Là-bas, nos experts te soigneront, aux petits oignons. Et avec la sécu, c'est gratuit. La lune sourit. Tu es gentil, mais je suis bien ici. J'ai mes habitudes. Une comète passe à proximité. La lune sursaute. En bas, Médor se met à aboyer. Victor prend une voix sévère. « Désolé, la lune, mais je dois t'emmener avec moi. Ordre du roi. Il dit que tu le déranges. » « De toute façon, ici, tu ne seras rien et tu ne manqueras à personne. » La lune est vexée. « Ici, peut-être, mais en bas, sur terre, c'est autre chose, car je suis la grande ordonnatrice du cycle de la vie sur terre. Les marées, c'est moi. Les radis et les salades, c'est moi. Les cycles et les bébés, c'est moi aussi. Et bien d'autres choses encore. En bas sur terre, on vit dans des grandes cités. On s'enferme la nuit derrière des volets et des rideaux et des doubles rideaux. Et plus personne ne connaît mes bienfaits. Victor est redescendu sur terre. Il a préféré laisser la lune là-haut, dans le ciel. Il l'a trouvée plutôt sympathique, mais elle avait vraiment l'air malade. Il reviendrait la visiter de temps en temps pour prendre de ses nouvelles. Et tant pis pour les pièces d'or et le poste de premier ministre. On dit qu'il est reparti avec son échelle sur son épaule et son chien sur ses talons vers d'autres aventures. Bon voyage, Victor, et merci de nous avoir laissé Madame la Lune là-haut dans le ciel. »